tak to nie jest. Cicatinara. C'est parce que Jésus dit voilà, mais il faut, faut être formé. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et lorsqu'il est bien formé, parce qu'il y a une bonne formation, une fois bien formé, chacun sera comme le rabbi, le maître. C'est la formation. Vous voyez, il y a deux qualités par rapport à notre relation avec Dieu. La première qualité, une qualité de fond, de base, une qualité fondamentale, une espèce d'amour fondamental de Dieu en nous, presque instinctif, disons, et qui fait pousser une. Rayonner, surabonder aussi, hein, de la lumière, de la paix, de la bonté, de la profondeur. Ça s'appelle la vertu de religion. Il y a des gens qui sont religieux. Dans l'hindouisme, dans... il y a des gens qui sont religieux. Ils ont la vertu de religion. Ils sont unis avec Dieu, et eux-mêmes ils sont très contemplatifs, éventuellement. Parce qu'ils ont une sagesse, quoi, religieuse. Et cela se forme tout seul. Quoique, ils ont bien besoin, quand même, de quelqu'un pour leur apprendre à faire pousser cette qualité, quoi, hein, de la vertu. Être religieux, être religieux, c'est... Tu regardes quand même, tu regardes. C'est la cause exemplaire, comme on dit saint Thomas d'Aquin, qui fait pousser toute religion. Tu regardes, tu as des modèles. Alors tu regardes comment ils font, tu regardes ce que... Alors tu as la vertu de religion, tu regardes ta mère, tu regardes ton père, tu regardes tes vrais sœurs, c'est pareil. Alors ça fait pousser une qualité intérieure, puis... Il y a des visages de carmélites, comme ça, qui apparaissent. Quand la petite jeune fille a 18 ans, parce que... Voilà, elle a poussé dans un monde religieux, quoi. Voilà, c'est la vertu de religion, c'est pas la foi, c'est pas l'espérance, c'est pas l'amour, c'est pas la charité. C'est pas forcément ça, vous voyez, c'est... Le... Et puis, il y a les vertus de foi, d'espérance, de charité, qui ne sont pas des vertus de religion. La vertu de religion, c'est une vertu naturelle. C'est une vertu naturelle, c'est une qualité naturelle. Normalement, tous les hommes, même s'ils ne sont pas chrétiens, devraient avoir la vertu de religion. Ce serait normal que les gens soient très intérieurs, qu'ils laissent la liberté au Créateur de répandre en eux sa lumière, de la voir se rabondir en eux, d'aller dans l'au-delà de l'unité de Dieu et de sa vie, quoi. Et de développer, enfin, de voir se développer tout l'art de la sagesse, de la saveur de Dieu. Et aussi la pénétration à l'intérieur du mystère métaphysique, transcendantal. Tout l'alphabet quoi, hébreu, quoi. Aleph, l'adoration, la joie, le fonctionnement, de voir quoi, qu'on peut nommer toute chose, c'est-à-dire les porter en nous à l'intérieur de Dieu. Et même de faire que l'univers, la vie autour de nous, se transforme au seul fait qu'il y ait la prière, l'adoration, la louange, la vie intérieure, mais aussi la vie extérieure, c'est-à-dire l'ajustement à tout. La plupart d'ailleurs des vertus sont liées les enfants hein, ne sont pas des émanations de la vertu de religion. La vertu de religion, c'est une des 88 vertus. Et c'est la révélation qui nous indique que ça devrait être la première. D'ailleurs, c'est la première génétiquement, puisqu'on est lié à Dieu dès le départ. Ordinairement, comme les vertus sont vastes communicants, la vertu de religion met un amour de Dieu. Et le cœur spirituel, du coup, se déploie. Et on peut avoir beaucoup de bonté. C'est la bonté, principalement. La simplicité, la bonté, qui se voit sur un visage de quelqu'un qui a la vertu de religion. Une simplicité. Et un regard très, vous savez, ce regard très ouvert, très disponible, très humble, et aussi une bonté qui, à force, devient une seconde nature. Et voilà, et si... en plus de ça, on devient disciple de quelqu'un qui a atteint au fond une sagesse religieuse très profonde, très grande. Alors, si on se met sous son nom, si on apprend, alors si en plus on a comme ça quelqu'un qui nous fait, qui permet notre intelligence de se purifier, quoi, pour s'écarter du monde religieux, du monde sacré. Qui est faux. Parce qu'il y a des voix qui sont fausses. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Mais s'il y a quelqu'un qui m'aide, par exemple, à ne pas tomber dans des choses qui pourraient être logiques, mais qui ne sont pas vraies. Quoi. Par exemple, je parle de la réincarnation, par exemple. Ou des choses de ce genre, vous voyez. Mais aussi la manière de faire un acte d'adoration. Une manière fausse de faire un acte d'adoration. Il y a un mouvement dans l'adoration qui l'inverse. Il y a des gens qui descendent au fond de leur âme. Et descendant au fond de leur âme, voient ce petit point qui est en eux et qui est la source de toute leur vie de lumière intérieure. Ils confondent ce petit point qui est une source, qui est un principe, avec Dieu. Alors ils cherchent à s'engloutir, s'unir à ce point de lumière qui est une source de vie. Mais cette source de vie, c'est leur âme, c'est pas Dieu. Alors voilà, s'ils ont un maître de sagesse, quelqu'un qui est là pour la dire, tu vois, ça, c'est l'âme, c'est pas spirituel. L'existence, elle, est dans l'acte pur. Origine de tout ce qui existe. Et même ce petit point qui est au fond de toi, il t'a été donné, et ce n'est pas Dieu. Donc quand tu t'unis à ton âme, tu t'unis à toi-même, et du coup tu t'égares, tu ne peux plus contempler Dieu. Alors il ne te reste plus qu'une intériorité qui n'a plus rien à voir avec la vertu de religion. Puisque tu n'es plus relié à Dieu, tu es relié à toi-même seulement. Tu as seulement transposé cette espèce d'amour de Dieu tu as abandonné Dieu et tu as développé la vertu de religion du côté de l'idolâtrie. Tu t'idolâtres toi-même. Tu t'unis à ce qui est le plus pur, le plus divin en toi. C'est ton âme. Du coup, tu n'as même plus de vie spirituelle. Un aveugle, si conduit un autre aveugle, tombe dans un trou. Et même les gens qui sont très religieux, et qui sont chrétiens, qui sont baptisés, et qui confondent cette idolâtrie avec leur vie chrétienne. C'est pour ça qu'ils disent, moi je dois faire ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai reçu des grâces, moi j'ai ressenti très fort la visite de Dieu. Mais non, c'est quand même le si tu vas expliquer ça à Gandhi, par exemple, il va éclater de rire, il va se rouler de rire sous la table. Et un chrétien lui dit ça, il se roule de rire, éclate de rire. Je n'ai jamais vu quelque chose aussi ridicule. Pourquoi? Parce que quand j'idolâtre, quand je pratique tout cet instinct, la vertu de religion qui avait commencé à se déployer sur la famille de nature, mais à cause de l'orgueil, je l'ai déraciné, je l'ai mis dans l'idolâtrie moi-même. Voilà, et puis en plus j'ai mis des noms de Jésus dessus, des noms du Saint-Esprit dessus. Ça donne ça. Et bien qu'est-ce que part l'âme? Et bien du coup c'est sûr, hein, dans sa source, dans ce point, qui est un point de source, qui est un point de principe, qui est un point de lumière, lorsqu'il s'ouvre, lorsqu'il se déploie, oh, ça fait des effusions. Oh, j'ai reçu une grâce de Dieu. Non, c'est pas une grâce de Dieu, c'est ton âme qui s'est ouverte, c'est tout. Rien à voir avec Dieu. L'âme est fabriquée avec de la lumière. C'est un point de force. Qui de soi a été donné. Il est tellement fort que normalement, on ne devrait pas mourir. Alors, c'est quand même fort, hein. C'est plus fort que la mort, normalement. D'ailleurs, quand tu meurs, l'âme est toujours là. Alors, tu peux confondre très bien. Ah, j'en suis une. Pouf. Mais oui, c'est le Seigneur est vraiment venu en moi, il m'a confirmé. Tu vois, tout ça. Alors, c'est même pas la vertu de religion. Comment la vertu de religion peut nous faire tomber dans l'idolâtrie? Ce n'est pas éclairé par l'adorateur. Et l'adorateur lui-même ne me met pas dans la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne, c'est autre chose que la sagesse naturelle. Une formation, vous voyez, même si on n'est pas spirituel, il faut une formation. Si on est tout pour Jésus aussi, le blé et la vigne, parce que la vigne, tu prends la vigne, si elle se forme toute seule, ça donne des petits trucs pas plus gros que le petit pois. Et puis quand tu fais la vendange, ça donne du. C'est plus immonde que du verger. Non, si tu prends sécateur, tu coupes, ça saigne. Là, qu'il se noue, ça fait des nœuds, se tord sur la mer. Et chaque fois, on coupe, ça saigne. Putain, alors la sève monte, c'est comme une belle grappe. C'est pas le vin. Et pourtant, c'est qu'une plante. Cette plante n'atteint pas sa finalité naturelle sans qu'il y ait la main de l'homme dessus. La main d'un autre. Si j'ai pas été formé par quelqu'un. Si j'ai pas été disciple. Je me forme moi-même. Et je peux me former moi-même. J'ai tellement de grâce de Dieu, tellement de confirmations, tellement de miracles. Et c'est les confirmations de l'âme ne sont pas des confirmations spirituelles. Alors on a, petit à petit, il faut savoir quand même la différence entre moi et Dieu. Hein. Je ne suis pas Dieu. C'est intéressant de savoir ça. Hein. Tout le monde le voit, il n'y a que toi qui ne le vois pas. Ah, tout le monde le voit. Ça, mais je le suis. Les autres n'ont pas leur place. Ouais, c'est vraiment, c'est magnifique de voir ça. C'est tellement caricaturé quelquefois. C'est... On n'ose rien dire hein, parce que bon. Alors je suis dit voilà, il faut être formé, une formation, parce que deux aveugles vont tomber forcément dans un trou. Et celui qui est formé, bien formé, il est formé par un autre. Alors quelque part, la formation, vous voyez, passer de la cause exemplaire, je m'excuse de dire ça, c'est peut-être un petit peu trop thomiste, mais passer de la cause exemplaire, hein, qui est belle, la cause exemplaire, c'est bien parce que fait passer la vertu de religion quand même. Et c'est vraiment Dieu, quoi, qu'on adore. Hein. La vertu de religion, c'est vraiment le Créateur, c'est vraiment la présence de Dieu. C'est vraiment le papa de notre vie, de notre existence, de notre famille. Ah oui, et puis il est là, et puis il a sa providence, est tout le temps là. Sa providence, et c'est notre père et on l'aime, et c'est notre providence, on lui fait confiance tout le temps. On lui fait confiance et il est... Voilà, on est toujours en extase, toujours à sortir de nous-mêmes, toujours hors de nous-mêmes. Et suspendu à sa main, et suspendu à sa... son regard, quoi, et on le regarde et on emporte, c'est vrai. De manière très savoureuse, très pacifique et très continuelle, comme on est une seconde nature, on emporte l'ensemble de la création en lui pour la faire sortir d'elle-même. Et lui, du coup, irrigue de l'intérieur tout être de vie à travers nous. La vertu de religion, c'est beau, hein. C'est très intérieur et c'est très simple. Mais c'est un regard ouvert. On voit ça, ces regards, quelquefois chez les enfants. Ces enfants de l'Inde, là, ces enfants africains. Quand ils ont la vertu de religion, c'est un regard. Ça se voit tout de suite, quelqu'un qui a la vertu de religion, par rapport à quelqu'un qui a transplanté cette vertu de religion, qui est finalement... dans l'idolâtrie de soi-même, hein, sa vie intérieure, c'est ça, pharisien, c'est quelqu'un qui a une douceur, une onction intérieure, une intériorité extraordinaire. Dans le monde, ça s'appelle le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est le culte de l'âme. Finalement, c'est le culte de la bodhéité, ou si vous préférez, de l'éveil. Ton âme est tot. L'âme éveillée à l'éveil du tout. Et le tout et ton âme n'ont plus de différence. Le bodhisattva, c'est l'homme réalisé. C'est l'âme réalisée. Mais Dieu là-dedans est totalement absent, totalement oublié. Bodhisattva. C'est pas du tout la vertu de religion. Et pourtant, on voit dégouliner. On va découler quelquefois comme de l'huile, de la bonté quand même de ces gens-là. Parce que l'âme est bonne quand même, elle est donnée par Dieu. Mais il ne faut pas confondre l'âme avec Dieu. Hein. Vous voyez? Ça, c'est uniquement, et ça n'a rien à voir avec la avec la sainteté de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est tout à fait autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est tout à fait autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Enfin, et pourtant, la grâce sanctifiante a besoin quelque part. Elle a besoin quand même qu'il y ait quelque chose de juste, quoi. Quelque chose, qu'il y ait une bonne intention quand même. Si mon intention c'est de cultiver le culte religieux de moi-même, ou si mon intention c'est de cultiver le culte de l'acte pur du Créateur, de tout ce qui existe. Et le curé, il nous apprenait quand on était petit, voilà, voyez, vous avez trois marches là, une, deux et trois, voyez, une, deux et trois marches. Hop, vous montez, vous descendez, c'est pareil. Voilà, parce que Dieu est mon créateur. Dieu est mon père. Dieu est ma providence. Dieu est mon juge, Dieu est mon Seigneur. Voilà. Ça, c'est naturel, ça. C'est la nature qui travaille en tout ça. Ben, Dieu est mon créateur, donc je l'adore. Dieu est ma providence, donc je lui fais confiance. Et Dieu est mon Seigneur, donc je lui obéis. Dieu est mon juge, donc je le crains. D'ailleurs, je suis une très très grande délicatesse par rapport à sa présence perceptible, mais tout ce qui se moque de moi, et enfin Dieu est mon père, je l'aime. Ça, c'est la sagesse naturelle, c'est la vertu de religion. Et le curé nous expliquait ça. Monter les trois ou les cinq marches, voilà, et tu apprends par cœur. Dieu est mon Père, Dieu est mon Créateur, Dieu est ma Providence, Dieu est mon Juge, Dieu est mon Seigneur, Dieu est mon Père, Dieu est mon Créateur, je l'adore. Ah, comment on fait pour adorer? Ah, c'est encore mieux si je l'adore de manière contemplative, c'est encore mieux, c'est sûr. Ah, si en plus je suis fort. Alors à ce moment-là, et c'est ça le papa, la maman et la famille, c'est pour former à ça. Le curé aussi, hein. Et le curé dit ça, voilà. Ça, dis-moi, j'étais quand même, j'ai poussé dans la religion. J'ai tout fait. Et puis en fait, j'ai tout fait, ça peut dire une chose ou l'autre. Ou bien j'ai tout fait, ou bien j'ai tout fait. Je ne respirais pas de la grâce du tout. Mais, vous voyez, c'est parce que ça peut être transplanté comme ça, dans l'idolâtrie. Dès qu'il y a moi-je, c'est sûr qu'on a abandonné la vertu de religion. Ça, c'est clair. Alors, je suis attaché à mon parcours. Pas si longtemps que ça, là, je dis. Il y avait une personne qui faisait une retraite. Et au bout de 4 jours, elle a vu que cette personne ne pouvait pas expliquer son parcours, quoi. Dire son parcours, dire ce qu'elle vivait, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle vivait encore, ce qu'elle voudrait vivre, etc. Donc, on voyait qu'elle était torturée, quoi. Elle avait le syndrome de la valise, jour et nuit. Alors, le quatrième jour, j'étais un peu la retraite, je l'ai écouté pendant 11 heures. Alors elle n'est pas partie. Mais elle a dit de son parcours ce que Seigneur faisait avec elle, ça. Ce que lui fait, les tentations, les difficultés, les croix, tout ça. C'était son parcours. Très très important, son parcours. Très important, son parcours. Mais que ton parcours soit bien ou pas bien, c'est ton âme, ça. Ton âme, tu sais ce que tu fais. Là, hop, dans le trou. préoccupe même pas, tu méprises. Est-ce que c'est vachement bien? Très bien. Est-ce que c'est très 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 très, très mal? Parfait. C'est pareil. Kif kif. L'esprit qui est en nous, l'esprit, la nous, l'intelligence, la volonté, la capacité d'amour qui est en nous, le cœur spirituel, la liberté dans l'échange de l'accueil et du don, liberté de Dieu. J'ai la même liberté que celle de Dieu. C'est la même réalité, j'ai la même liberté. Ça, c'est les puissances de vie spirituelle qui, à l'intérieur d'elles, vont faire pousser la vertu de la religion. Vous voyez, quand on a un papa et une maman, bien sûr que c'est ça, l'essentiel de l'éducation, hein, de la formation de l'enfant. Et souvent, quand on rentre comme ça dans un carmel, un noviciat, on arrive à l'air, hein, ça fait trop, c'est cistercien, trop. Alors, on va être formé, mais on va prendre dans les personnes qui sont là ce qui relève de la vertu de religion pour, dans l'intérieur de la vertu de religion, c'est comme un bâton, quoi. Et hop, les fleurs toutes divines, purement surnaturelles et purement divines de la vie chrétienne vont fleurir sur ce bâton de la vertu de religion. Et on n'a pas d'un côté la vertu de religion, puis de l'autre côté la vie chrétienne. Il faut adorer son créateur, ça c'est. Il faut lui faire confiance, il est notre providence. Il faut avoir une très 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 grande délicatesse vis-à-vis de sa présence. Parce qu'il est notre juge quand même. On va faire sa volonté. Il y a d'enfance, d'adolescence et d'adulte. Il y a cette loi éternelle qui est là. On est très, 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 très sensible à percevoir cette loi éternelle par laquelle il surgit dans sa présence naturelle en nous. Voilà, comme une. Pour qu'on puisse suivre la joie. Et les quatre vertus cardinales. Une très très grande délicatesse intérieure vis-à-vis de lui. Il faut le craindre, parce que c'est notre juge, on appelle ça la crainte de Dieu. C'est la crainte, on la craint de ne pas percevoir cette loi éternelle d'amour qui revient dans les épreuves de la vie, qui est au travers des âges de la vie, à chaque fois de manière différente. Il y a quatre âges de la vie, c'est pour ça qu'il y a quatre vertus cardinales. Si on est ajusté qu'à soi-même, on n'a pas la vertu justice. Si on ne met pas de lutte dans les rouages, dans la famille, dans la société, le village, c'est qu'on n'a pas la vertu de prudence, on n'a pas la vertu, on n'a pas l'onction. Voilà, si on est égoïste, c'est qu'on n'a pas la vertu de tempérance. C'est sûr, ça. Des choses qui se développent dans, à travers et avec la vertu de religion. Et quand on arrive au noviciat, ça fait tout drôle, parce qu'on se dit, mais ça n'a rien à voir avec ma religion, la vie surnaturelle. C'est toi. Si, ça a à voir, parce que c'est toujours de bon Dieu. Mais cette fois-ci, c'est personnel. C'est plus du tout l'âme. Ah, comment on dit, ah, les grâces que j'ai, ça c'est l'âme. Ah. Les croix, les tentations, l'enfer dans lequel Dieu m'enfonce, ah, c'est dans l'âme. C'est pas l'enfer, c'est toi. Parce que si tu as inversé la vertu de religion, effectivement, Hein? Normalement, les pieds sont dans le purin, pas la tête. Si tu mets la tête dans le purin, c'est sûr que... Et tu attribues ça au démon. C'est pas le démon. C'est que tu n'as pas la vertu de religion, c'est tout. Alors, c'est sûr. Ça ne doit pas être très compliqué, quoi. Se remettre comme ça. Les pieds dans le purin et la tête dans la providence. Donc. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi j'aime bien ce qu'il disait, ce que donne notre Père Cuvée. Vous voyez, cinq marches. Dieu est mon créateur, Dieu est ma providence. Dieu est mon juge, Dieu est mon seigneur. Dieu est mon papa. Dieu est mon créateur, donc je l'adore. Dieu est ma providence. Mon Seigneur, donc je le prie. Et voilà, et Dieu est mon Père, donc je l'aime. Mais c'est pas le Verbe de Dieu, ça. C'est pas l'époux, hein. Première personne, ce n'est pas le roi Hakadesh, le Saint-Esprit. C'est l'unité des trois. L'unité métaphysique des trois. Puis je rentre dans le nourrisseur, puis pouf, comme si le bois, comme si ce bois solide, cette colonne extraordinaire, s'épanouissait et me projetait comme ça, les feuilles, les fleurs étaient cueillies et pénétraient ailleurs, et j'étais emporté à l'intérieur de Dieu, et d'un seul coup, c'est la vie divine, c'est naturel, c'est le feu incréé qui me transforme. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce carmel? J'ai plus du tout envie. Et puis après, la maîtresse des novices me dit, au bout de 2 ans, non, votre place n'est pas ici, vous devez partir dans le monde. Le père Manel te dit, écoutez, nous cherchons Dieu, et donc votre place n'est pas ici. Ce que vous vivez est beaucoup trop fort pour nous. Nous vivons de Dieu. Alors votre place n'est pas chez nous. Eh oui, il faut être formé, c'est pas toi qui te formes avec, à partir de tes expériences, de ton âme. L'expérience de ton âme te fait sortir même de la sagesse naturelle et de la vertu de religion. La vertu de religion, c'est très important. C'est très important quelque part comme conditionnement. C'est un conditionnement naturel. Et au moins, du coup, on ne fait même plus attention à ce qui se passe dans notre âme. Mais il y a des miracles dans notre âme. On doit les mépriser. Comme on méprise du vomi par terre. Mais j'ai eu une visitation de la lumière. C'est sorti du feu d'amour. J'ai ressenti de Saint Jean de la Croix. Vous devez mépriser profondément ce qui relève de l'âme. Le mépriser, quoi. Mais j'ai eu une apparition. D'accord, tu le méprises. J'ai eu une vision. Tu le méprises. Tu dois mépriser profondément. Profondément, mais très profondément. Pourquoi? Parce que ce sont des déploiements. Et c'est un petit peu comme, voilà, un vase de nectar très très pur qui s'est renversé. C'est une chute. Vous comprenez? Tu dois mépriser, tu dois pénétrer dans ce que tu es, tu dois accepter ce que tu es. Tu es un mouvement éternel et éternel, hein, et un créé d'amour de Dieu, d'amour en Dieu, qui s'est concentré dans une petite goutte de sang. Et tu as dit oui pour être ce mouvement d'amour éternel dans une matière vivante, toute dépendante tout aspirer, tout assoiffer, de se nourrir d'un amour encore plus grand que celui que ce que d'un amour toujours plus grand, toujours plus éternel, à cause de la volonté personnelle, intime, glorieuse, victorieuse et totalement divine de Dieu. Alors là-dessus, après, Jésus arrive. Jésus arrive et dit, oh le pauvre, il confond son âme avec le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mais je ne sais pas touchant ça. Oui. Mon Dieu, mais il croit qu'il voit, il croit qu'il voit la lumière, alors... Une poudre là-haut, une poudre ici, une poudre là, et il croit qu'il voit la lumière. Et il croit qu'il va expliquer à son prochain où est la lumière. Qu'est-ce que c'est touchant quand même. Et ça l'énerve pas, hein. Ça l'énerve pas. Et comme Gandhi, il éclate de rire quand il voit tous ces catholiques, il éclate de rire. C'est vrai. Bon, la poutre, hein, c'est la croix. Hein. La poutre et la paille. Et la poutre, c'est ce qui porte le Verbe de Dieu. Et la paille, c'est ce qui porte ça, l'Eucharistie. Hein. Donc, il y a une signification divine quand même, hein, bien sûr. Que tu enlèves de ton œil, de ta vie contemplative, il faut que tu pénètres, que tu regardes, tu ne vois même pas l'apôtre, c'est-à-dire tu ne la contemples pas, la croix, tu ne contemples pas l'apôtre, tu ne contemples pas, et tu veux aider ton prochain, tu ne contemples même pas la croix, tu n'en vois pas, tu ne regardes pas l'apôtre dans ton œil, tu ne contemples pas la croix. L'anéantissement total de l'âme a disparu et avec l'esprit, tu peux rentrer à l'intérieur de Dieu et Dieu, lui-même, vient s'engloutir spirituellement dans le mystère de la croix, c'est-à-dire de l'esprit. Et tu ne contemples pas ça et tu veux aider ton prochain à rentrer dans l'Eucharistie. Parce que c'est ça qui porte le grain. Tu n'as pas à conseiller qui que ce soit, je veux dire, si tu n'es pas formé, transformé, jusqu'au bout, complètement. Une fois que tu es complètement formé, alors tu es comme ton maître. Parce que, c'est ce que disait Saint Jean-Gabriel Berbois. Jean-Gabriel Berbois disait toujours, il répétait très souvent sa prière. Seigneur Jésus, dans ta croix, voilà, que ta mémoire soit ma mémoire, que ta intelligence soit mon intelligence, que mon intelligence devienne ton intelligence, que mon cœur spirituel devienne ton cœur spirituel, que ma mémoire habite ma liberté spirituelle devienne ta liberté éternelle, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que Jésus crucifié, spirituellement, qu'il n'y ait plus que Jésus crucifié, le Verbe de Dieu. Immolé, le Verbe de Dieu ouvert. Et Saint Jean-Gabriel Berbois, à la fin, c'est un espèce de corps vivant d'où émanait l'intelligence contemplative de la lumière de gloire du Verbe de Dieu. Et puis le feu brûlant qui brûle sa aspiration active incréée dans son cœur, dans son cœur humain. Dieu se donne de manière telle qu'il n'existe plus que dans les autres personnes, qui elles-mêmes s'embrassent entre elles dans l'unité subsistante du don et de l'accueil du don, dans l'admirable exercice de la responsabilité et de l'aspiration. Et voilà, et son, le corps de Saint Gabriel Berbois, à un moment, à plusieurs moments de sa journée, était totalement absent de son âme. Il était mort complètement, la mort de l'âme. L'âme n'existe plus, il ne vit plus. Même à supposer qu'il y ait quelque chose qui est fait à l'âme, des souffrances, des tortures, ou des bienfaits extraordinaires de transfiguration de Dieu, il les méprise, parce qu'il a rencontré Dieu, parce qu'il est catholique. Et c'est ce qui se passait avec Sainte Marie l'Arabe. À un moment, Dieu dit à Lucifer, évidemment, je lui ai coupé la tête et toi tu je lui ai coupé la tête. Hein, et toi tu la ressuscites. Et puis même tu mets c'est la Sainte Vierge qui vient là, qui est venue la cicatrice, etc. Bon. Et puis avec tout ce que tu lui donnes comme grâce dans son âme, tu penses n'importe qui, hein. N'importe qui dit oui, dans ces cas-là, c'est pas juste, hein, mais tu lui enlèves tout ça. Et moi, je rentre dans son âme. Tu vas voir, Seigneur, si elle continue à être fidèle. Ah, Seigneur, oui, on prend ce que tu veux. Voilà. Tu veux combien de temps pour en finir avec elle, alors hein? Tu veux combien de temps pour en finir avec elle? Marie l'Arabe, on l'a canonisée il n'y a pas longtemps, c'était au mois de mai. Hein. On l'a canonisée en même temps que Saint-Émile Villeneuve, ça c'est son prix Dieu, ça. C'était ma tante, Saint-Émile Villeneuve, ma habit de Castres, ma tante Saint-Émile Villeneuve. Bon, ouais. Alors elle dit, bon, oh mais à moi ça me suffit largement. Elle va en avoir un. Voilà. Bon, ok. Je te donne même 2 mois. Et donc voilà que le démon rentre dans l'âme. De Sainte Marie l'Arabe. Vous connaissez l'histoire, bien sûr, hein, puisque tout le monde sait. Mais comme elle, son âme, elle la méprise, ce qui se passe dedans, de transfiguration, de miracle, etc., ou de détresse diabolique infernale, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. C'est pareil. Que ce soit un truc purement diabolique de l'enfer ou purement céleste, charismatique au dingo, ça ne l'intéresse pas. Elle l'a méprise. Pourquoi? Parce qu'elle est formée par Saint Jean de la Croix. La Carmélite. Saint Jean de la Croix a dit, tu dois mépriser. Ah, j'ai vu le sort de mon âme rempli du feu, un feu inextinguible, une puissance énorme. Et même tout le monde a vu ce feu sortir de moi. Ça a converti plus de 2000 personnes. Je le méprise. Une puissance est sortie de moi. Elle m'a bon, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ça a fait tomber la pluie. Qu'est-ce que je m'en fiche, franchement. En plus, c'est pas vrai. On s'imagine plein de trucs. C'est les gens qui s'imaginent un truc. Ils se font tout un baratin. Et puis du coup, c'est à cause de leur foi que tu cours. Ceci et cela, toi tu n'y es pour rien. Donc elle est habituée à mépriser. Et si bien qu'elle est là, elle est toujours spirituellement à l'intérieur des processus sacrés, l'inspiration, bien au-delà de ce que vit l'âme. Et donc, tout à fait. Et donc le démon, il doit subir ça. Mais il brûle pire que dans le tartare, disons. Alors déjà, au bout de 15 jours, il dit, stop, j'en peux plus, là. Il faut que je sorte. Ah non, t'as demandé 1 mois, je t'ai accordé 2 mois. 2 mois, c'est tout. Ah non, je veux pas rester là. C'est génial. La vie spirituelle surnaturelle, c'est pas la même chose que la vertu de religion. Et la vie intérieure du monde sacré, des énergies transcendantales, du divin qui est en nous, ça n'a rien à voir avec la vertu de religion. Vous voyez, vous avez les trois, c'est pour ça que tu tombes dans un trou. Mais si jamais tu es formé, oui. Et la transformation, c'est là qu'on voit que Jésus dit, attends, l'union transformante, mais c'est parfaitement essentiel. Et tu peux, c'est pas tout seul. C'est ce que disait l'épître de Saint Paul. Hein. si l'évangile n'était pas annoncé, et la doctrine, des apôtres, la doctrine infaillible, tu ne peux pas y pénétrer si elle n'était pas proclamée, manifestée de manière audible. Du coup, tu la reçois, et tu deviens disciple, et tu te laisses former par elle. C'est pas toi qui te formes tout seul. Jamais, ça n'existe pas, ça. Ah, mais si, moi je suis théodidacte. Je suis l'incarnation même de la transformation divine de Dieu sur la terre. Je suis très très au-dessus de ça, je ne peux pas croire. Même Lucifer est étonné quand il me voit, quoi. J'ai même dépassé Lucifer par le bas, tu te rends compte? Non, il y en a un qui me dépasse. Bah, c'est inouï, ça. C'est extraordinaire. Non, mais écoute, tu vas la fermer maintenant. Tu vas t'arrêter dans ta sonnerie, là, cette souillonnade, là. Bon. Et il faut te former. C'est beau, ça, ce passage d'Évangile. Hein. Hein, l'apôtre qui est dans ton œil regarde, l'apôtre. Parce que la croix s'est plantée en toi par le baptême. Donc, regarde ce qu'il y a dans la croix. La croix, c'est fait avec du bois. D'un arbre. Et moi, je me suis identifié à cet arbre mort, quoi. Déraciné par Adam. Et donc la vie de l'homme, elle est dans le nouvel Adam, déchiré, anéanti, mort, ouvert dans le Verbe de Dieu, où il n'y a plus rien. Et bien c'est ça qu'il faut contempler. Tu vas contempler la personne même de Dieu, dans sa lumière, spontanée, l'inspiration du phare. Contempler, tu vas voir. Tu vas voir, parce que le caractère du baptême te permet de rentrer ce qu'il y a à l'intérieur de la sève. Parce que le grand roi d'amour du ciel éternel se trouve dedans, dans la sève de la croix. Regarde, contemple, pénètre et laisse ton intelligence spirituelle, ton cœur et ta liberté s'écouler délicieusement à l'intérieur de la sève de la croix. C'est le Verbe de Dieu ouvert. Et laisse-toi assumer, absorber, assumer, aspirer, par le Verbe de Dieu, et laisse-le te former, pour voir que cette sève, il l'a fait descendre à l'intérieur, d'une nourriture qui nourrit et glorifie le Père dans l'Eucharistie, humblement, doucement, silencieusement, continuellement jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'explosion de la fin du monde à l'intérieur de l'éternité, de la gloire de Père. Donc, à ce moment-là, tu pourras dire à ton prochain, regarde, ah, si nous partions ensemble, si nous regardions ensemble, deux par deux, si nous regardions ensemble, de manière joannique, apocalyptique, mystère de l'Eucharistie. Donc ne vivez donc pas du mystère de l'Eucharistie seulement avec la vertu de religion. La vertu de religion ne suffit pas pour vivre du mystère de l'Eucharistie. Je veux pas. Ma religion, c'est d'aller à la messe. Et c'est de communier à Jésus-Hostie. Mais non, non. Je peux avoir la religion catholique, puis m'arrêter à la vertu de religion. Et Jésus dit non, l'apôtre est un pas. Partons ensemble, avec l'œil du poil, avec le regard. La contemplation, c'est une contemplation mutuelle. Mais d'abord, du coup, je vois le Verbe de Dieu, le mystère de la croix. Et c'est pas mon âme qui le voit, c'est l'acte fort. foi qui permettent surnaturellement de pénétrer et qu'on a la lumière surnaturelle qui est la sève qui est à la croix de la transversale de la croix de Marie, qui est la sève qui me donne la croix. Dans ma contemplation à la fin de la j'aurais beau être transfiguré, plus que 1000 soleils, je vois rien du tout. Et ça, en plus, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça, c'est mon âme. M'intéresse pas, je le méprise. Complètement. Oh, si vous avez vu, vous avez été transfiguré comme soleil. Transformation, donc, un grand coup de poing dans la figure. Ce qu'il dit, l'apôtre, oui. Alors, dans le mystère de la croix, c'est beau, ça. Si c'est spirituel, par la foi. Ouais. Là, deux fois, c'est facile, en fait. Un, c'est naturel, avec votre intelligence spirituelle, contemplative. Pour entrer dans le mystère de la croix, et voilà, vous avez la lumière sonatoire de la foi, la contemplation de Marie, quoi, la contemplation de la foi. C'est naturel, divine, pure, immaculée, en plénitude reçue, en plénitude reçue. La foi a toujours une lumière surnaturelle, accomplie en plénitude reçue. Il ne faut jamais oublier ça. Quand il disait avant, mais j'avais vu le curé qui disait ça. Attention, la foi, c'est une lumière surnaturelle. Accomplie en plénitude reçue. Hein? Donc c'est avec ça. Donc, ça surgit à l'intérieur de moi, hors de moi, puisque l'intelligence est contemplative. En plénitude reçue. Je mettre à l'intérieur de la croix et je vois cette mystère toute limpide. Et du coup, il n'y a plus que cette liqueur délicieuse, l'amour éternel lumineux, le Verbe de Dieu, dans l'union apostatique du Seigneur Jésus. Et si je pénètre, je les touche, je la contemple, je m'endoris, on abreuve. Il n'y a plus que l'union apostatique du Seigneur Jésus. Il n'y a plus que l'union apostatique du Seigneur Jésus. Il n'y a plus Dieu, quoi, dans l'union apostatique du Seigneur Jésus. Ça. Ah, ça y est, j'ai fait un acte de foi. Ça dure 5-7 secondes. C'est beau ça, puis je m'habitue. Vous faites ça 50 fois. N'est-ce pas? Ça fait 5 minutes. Et après, vous laissez. Et vous êtes formé par les 15 minutes qui suivent. C'est-à-dire transformé. C'est ça l'union transformante, n'est-ce pas? Ben, vous pouvez faire la même chose avec le cœur spirituel, et puis ensuite la même chose avec le mémorial de vie, avec la liberté éternelle, divine, toute pure. Nous avons la même liberté, c'est la même existence, c'est la même capacité. Il faut l'actuer, c'est tout. C'est au pouvoir de l'être humain dans la vertu de religion, et c'est au pouvoir des vertus surnaturelles d'espérance de pénétrer dans toutes les grâces que Dieu donne à la nature humaine entière, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'accomplissement, à la plénitude reçue, et au dépassement au-delà du voile, dans la lumière de gloire, hein, de la liberté supérieure à celle du monde angélique. Je fais un acte d'espérance, je le reçois, je touche ça. Je touche ça dans mon corps spirituel. Trop fort. Et si je fais les trois en même temps, l'acte de foi divin, l'acte d'espérance divin, surnaturel, et l'acte d'amour, de charité divin, si je fais les trois en même temps, ça y est, l'Esprit Saint peut commencer à me transformer. Si je fais les trois en même temps, l'Esprit Saint peut commencer. Et je vois que ça n'a rien à voir avec mon âme. La vie chrétienne, oui. Ben, j'ai été à la messe, j'ai communié, ça m'a fait beaucoup de bien, hein, je me sens un peu plus fort. Ça, c'est la vertu de religion, ça. Je me sens un peu moins tenté, je veux faire un peu moins de péché mortel. Depuis que je vais à la messe le dimanche, je regarde à peu près 2 fois moins de films à la télé. Et film aussi, hein, dans ma tête. Ça, c'est la vertu de religion, ça. D'accord. Et l'évangile d'aujourd'hui, stop. Maintenant, allez. Hein, sur Sub Kanda. Un peu plus haut maintenant. Comme si ça devenait catholique. Hein, c'est ça. Une formation. Et c'est Dieu qui nous forme. C'est Dieu qui nous forme. À travers. Le corps mystique vivant et anti-Jésus. À chaque fois que vous entendez, que nous entendons ces choses-là, là, ce que je viens de dire pendant 20 minutes, là, tu me dis, c'est vrai, on l'a déjà entendu très 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 souvent, enfin, beaucoup de fois, quoi. Ça, on l'a entendu très très souvent, beaucoup, beaucoup de fois. Beaucoup de fois. C'est terrible. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de le répéter une dixième fois, une quinzième fois? Et parce qu'on ne peut pas passer au chapitre suivant, parce que vous n'avez pas, parce qu'on n'a pas intégré ce chapitre-là. Le disciple, le maître, il dit, je ne vais pas passer à la formation suivante, pour approfondir, je veux dire, parce que apparemment, ça n'a pas été digéré. Pour ça, fait disciple. Être un disciple. Ben, on peut demander quand même à Saint Jean Gabriel, parce que Saint Jean Gabriel, sa prière, elle est limpide quand même, hein, Seigneur, Jésus, Verbe éternel de Dieu, que ton intelligence devienne mon intelligence, que mon intelligence devienne ton intelligence, pardon, que ma contemplation devienne ta contemplation, que mon cœur, ma volonté devienne ta volonté, que mon cœur spirituel devienne ton cœur spirituel, que ma mémoire Yadéhi devienne ta mémoire Yadéhi, ma mémoire devienne ta mémoire, que ma mémoire devienne ta mémoire. Rien que ça, que ta mémoire, que ma mémoire devienne ta mémoire, que ma mémoire devienne ta mémoire. Uniquement ces deux lignes-là, de la prière de Saint Gabriel. Que ma mémoire devienne ta mémoire. On peut être le disciple de Saint Gabriel, là. Que ma mémoire devienne ta mémoire. Que Jésus dit, faites ceci dans ma mémoire. L'Eucharistie. Là, ensemble. Dans la lignée des deux, on va pouvoir contempler ce qui pousse à l'intérieur de la sève au bout de la paille. L'Eucharistie accomplie en plénitude reçue, voyez, dans ce parcours du Verbe de Dieu crucifié, dans son immolation à l'intérieur, l'Eucharistie, de la Jérusalem spirituelle jusqu'à la fin, dans l'épanouissement, dans le don de Dieu, en la vision béatifique de la lumière de gloire. Voilà ce que tu dois contempler, hein. C'est ta mémoire, ça. Ça, c'est la mémoire de Jésus crucifié. Et c'est sa mémoire, dès qu'il est conçu, 9 mois avant Noël. Voilà, sa mémoire humaine, c'est ça. Sa mémoire humaine. Il voit ça. Il aime ça. Il va vers ça. Il ne vit que de ça. Il s'engloutit déjà dans le mystère eucharistique accompli en plénitude reçue jusqu'à la fin. Il s'y efface, il s'y engloutit, il s'y perd dedans. Il disparaît de temps, il est eucharistique dès le premier instant de sa conception. Et le Père est lui, et le Saint-Esprit, dans la chair, dans la liberté, sa liberté humaine, ne vit que de ça. C'est dans cette mémoire que nous allons vivre de l'Eucharistie. au moment où il apparaît pour se donner, et que notre mémoire devienne sa mémoire, que notre mémoire disparaisse, et qu'il n'y ait plus que sa mémoire dans le corps du Christ, c'est le corps du Christ, c'est le corps humain de Jésus qui porte cette mémoire, cette liberté eucharistique. Et par cette liberté eucharistique, ben, il s'adapte, il est en affinité avec chacun, adapté à la liberté éternelle de chacun, et à oui chacun. Une douceur, une onction, une adaptation, une affinité, une humilité, une discrétion, une donation. Inconditionnel. Et avec un amour sans limite et sans fin. Et puisqu'ils me donnent leur foi, ils veulent être mes disciples. Alors à mon tour de me donner à eux sans, dans un amour sans limite et sans fin. Voilà ce que tu peux contempler ensemble avec la contemplation immaculée. L'œil de ton prochain, c'est l'œil de l'immaculé, c'est l'œil du disciple. En mémoire de moi. Ça, c'est la spiritualité de Saint Jean-Gabriel Perbois. Vraiment, à 36 ans, il est crucifié et tout. Oui, mais à 36 ans, il était docteur en philosophie, docteur en théologie. Il était professeur de philosophie. Quand il habitait à... Quand il était un homme touriste, c'est pas... C'est quelqu'un qui a accepté la formation du Saint-Père. Le Saint-Père demande que quand on est prêtre, on fasse 10 ans de métaphysique. Philosophie, sagesse naturelle dans la vertu de religion. Il n'a pas dit, oh, on va voir. Dans les séminaires, on en voit, vous savez, il y a les... tu dois faire ce travail, tu dois obéir au Saint-Père quand même. Ah non, non, écoute, ça, c'est... personne ne va voir que. Chut, hein, je suis sur mon écran, puis c'est tout. Hein. C'est ça le plus important à faire. Et il y en a qui, j'ai vu, même dans ma congrégation, ils allaient au cours, et puis, pfft, le baobab. Ils sont charmants, hein. Charmants. Mais, comment est-ce qu'ils peuvent accompagner les gens dans l'accomplissement de l'église reçue de la Vierge Marie Annie? C'est impossible. À l'intérieur d'elle, et dans une obéissance totale, au corps mystique de l'Église tout entière, du Saint-Père, de l'évêque, du prêtre, voyez. Voilà. Commencer au moins par ça, par l'oraison, et nous transformons. Après, on peut passer à la leçon suivante. Allez. La leçon suivante, ce sera pour dans 3 ans, peut-être. Enfin, quand on sera rentré là-dedans, quoi. D'abord, le béaba, rentrer par la porte, quoi. Ça va. Si vous voulez... faire un petit pas de plus, faites un petit pas de plus, allez, prenez saint Thomas d'Aquin, prenez le traité de l'union hypostatique. Vous avez lu le traité de l'union hypostatique? Vous sortez d'où là? Le traité du verbe incarné, par exemple. Ah, le traité du verbe incarné. Oh. Hein?
On comprendra rien.
Non, si, il a fait ça pour les débutants. Très miséricordieux, saint Thomas d'Aquin. Il a fait chaque question, etc. Traiter du verbe incarné. Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bien, traiter du verbe incarné? Oh, c'est un des 300 traités de la somme de saint Thomas d'Aquin. Prenez un. Prenez le traité du sacerdoce. Oh, la 444e question de la somme de saint Thomas d'Aquin. Le sacerdoce du Christ. Vous avez fait le traité du sacerdoce de saint Thomas d'Aquin? Jamais, personne. Vous n'avez pas mis votre nez dans rien. Mais c'est pour les commençants. C'est pour les commençants. Voilà. C'est très simple. Et en plus, c'est génial. Hein. C'est génial. Ou alors, le traité de la très sainte. Le traité de Dieu. Ah, le traité de Dieu, ça c'est génial aussi. Ça, c'est pour la vertu de religion, c'est... Et puis, le traité de la très sainte Trinité. Le traité de la très sainte Trinité. Le traité de la très sainte Trinité. Là, ça, le traité de la très sainte Trinité, là. Tu te rends compte, si tu as fait le traité de la très sainte Trinité, après que tu rentres, déjà, tu touches déjà une des premières personnes, tu te déploies. Quand tu as lu la somme de saint Thomas d'Aquin, ben, tu es libre pour foncer et pénétrer dans toutes les univers des processions, des subsistances sacrées et éternelles, des hypostases, des propriétés propres à l'éternel, la manifestation intérieure de chacune des personnes intéressantes et de leur communauté et de leur mutuelle, etc. Tout ça, c'est dans saint Thomas d'Aquin extrêmement facile. Parce que Dieu n'est pas compliqué. Mais si je l'ai fait une fois dans ma vie, traité de la très sainte Trinité dans saint Thomas d'Aquin, je crois que je n'aurais plus la moindre doute sur le fait que ce que je suis en train de vivre, c'est mon âme ou c'est mon esprit dans la vie de théologation naturelle. Plus la moindre doute. Mais il y en a qui préfèrent patauger dans
des problèmes.
Dans leurs problèmes psychiques, c'est métapsychique, pseudo-néo-transcendantaux, mystico-dingo. Bon, ben, allez-y, hein. Voilà, les pieds en haut, et la tête en bas. Voilà, t'en as pas marre, dis donc. Je bois de la merde, quelle horreur, Seigneur, pitié pour moi, pitié pour moi. Mais non, il suffit de te mettre du bon côté, c'est tout. Pas pitié pour moi. Ah non, je reste comme ça. Je suis très au-dessus de tout. Je suis beaucoup plus loin que la lumière. Au moins, je suis dans l'incarnation de Dieu, là. Ah non, t'es dans la merde. C'est pas pareil. tu vois pas que tu es... Tu ne vois pas, non. Il me semble, mon père, que... Ta gueule, tu vas faire voler. Une fois pour toutes, allez. Eh oui, c'est Dieu qui nous intéresse. Voilà, et donc on est formé. C'est marrant que Dieu n'ait pas voulu qu'on rentre dans la sainteté en dehors de l'Église. Hein. En dehors de cette discipline qu'on devient disciple. Et ça demande un travail. La paresse spirituelle fait qu'on n'a pas tellement envie de rentrer dans la vie contemplative. La paresse touche l'intelligence contemplative. La paresse spirituelle, c'est l'intelligence contemplative. Je veux pas. Et parmi les sacrements, celui qui guérit cette paresse terrible pour se former, c'est le sacrement des malades. C'est pour débloquer cette espèce de paresse diabolique, quelque part en obstinée, persévérante. Parce que faire l'erreur de ne pas être disciple à saint Thomas d'Aquin, c'est une erreur terrible. Hein. Je reste dans les dévotions tout le temps, tout le temps, tout le temps. temps, c'est une erreur terrible, c'est une erreur terrible. Bon, savoir que c'est une erreur, une chose, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Dès que tu sais que c'est ça qu'il faut faire, il faut y aller. Ne serait-ce qu'un peu. Le traité de la grâce sanctifiante. Oh là là, il était docteur en théologie. Saint Jean-Gabriel Perpois. Docteur en philosophie. Maximilien Kolb aussi. Maximilien Kolb, docteur en philosophie. Docteur en théologie. Docteur, pas simplement à la petite licence. Moi, j'ai même pas la licence. Moi, je suis pas agrégé. Je suis pas docteur. J'ai même pas licencié. J'ai même pas la maîtrise. Ouais, donc, très en dessous. Hein. Mais j'ai quand même essayé de mettre mon nez dans un bêtise, quand même, Aristote. Mais un petit peu, quoi. Mais c'est fou, le décollage immédiat dès que tu acceptes d'être disciple. Il peut en tomber 1000, 10 000. 1 milliard à tes côtés, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu contemples, ça y est, tu es surnaturellement. Dans la lumière accomplie, et en plénitude reçue, de la Jérusalem céleste, dans l'au-delà du voile, et tu peux te consacrer à Jésus, au Christ, au Verbe de Dieu, dans son face à face, sa lumière de toi, le chef, le roi, le rage de toute la création, comme disaient les Hébreux, le rage de toute la divinité en Dieu, la royauté éternelle. Et quand on se consacre au Sacré-Cœur, c'est pour pouvoir être consacré à la lumière de gloire, à la vie, au chef de tous les membres du corps mystique, hein, du corps mystique, ben, ancré du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Hein. Bon, tout ça, on le sait. Hein. Mais voilà. Et les vidéos, c'est uniquement pour donner le goût, en disant, il faudrait peut-être y aller. Mais la vidéo, ça ne vous forme pas. C'est uniquement pour dire, il faut aller à Saint-Thomas. Il faut aller, il faut être disciple. Il faut écouter le Saint-Père. C'est affolant quand même notre Église catholique, il faut reconnaître. Hein. Le Saint-Père qui explique la responsabilité une heure par semaine pendant 5 ans, et tu regardes 40 ans après, et personne ne l'a lu. Personne. Même les résumés vulgarisés par des gros sangliers dans la forêt. Même ça, personne ne l'a lu. Non, ça ne nous intéresse pas. Moi, je préfère... je suis amoureux. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Je déboule en me disant, qu'est-ce que je l'aime. Quand il va m'aimer, ce sera la responsabilité. Mais j'ai même pas lu la responsabilité. Ben, ça va pas. Hein. Je ne vous ai pas marié devant Dieu dans le sacrement de mariage pour tomber dans le trou. Responsabilité, c'est inouïe. Regardez, est-ce que vous ne voyez pas là, ça, c'est un signe de la fin du monde, que les catholiques ne sont plus disciples. Ils ne veulent pas être formés. Ils ne s'occupent plus de leur âme. En disant, j'ai une âme chrétienne parfaite. Parfaitement damnée, oui. Parfaitement orgueilleuse et parfaitement idolâtrée. Je vous assure, c'est vrai, quand vous faites une petite formation en sagesse religieuse, en sagesse naturelle, si vous voulez. La première fois que je l'ai fait moi à 30 ans, c'est vachement tard, hein, je trouve. Et pourtant, bon, et j'ai fait l'induction comme ça, on fait l'induction de l'âme, de voir en direct, immédiatement, la différence entre le divin qui est au fond de moi, le principe qui est au fond de moi et qui me fait vivre, c'est-à-dire moi, et Dieu. Mon âme est principe, source de ma vie. Parce que Dieu est source de mon être. J'existe. Il est source de mon esprit. Et si je confonds la source de ma vie et Dieu, ça veut dire que je confonds Dieu et mon âme. C'est terrible, ça. Mais la première fois, j'ai 30 ans, on m'a fait faire l'induction. On me fait faire l'induction de l'âme. Et du coup, ce qui sort de mon âme ou de mon corps, à partir de là, je le méprise, mais totalement, si j'aime Dieu. Hein, puisque Dieu est source, principe, acte pur de ce que je suis dans l'existence spirituelle, métaphysique de l'énergie éternelle. Que je suis dans la sagesse créatrice de Dieu avant la création du monde, c'est quand même pas du tout la même chose. C'est terrible de confondre moi et Dieu. C'est le péché par excellence. Et il faut, c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué si on veut, mais enfin, je pense qu'en quelques heures, on peut faire l'induction de l'âme. Mais quand tu le vois, tu le touches de toi-même, tu le vois de tes propres yeux. Ah, mais bien sûr, tu touches, tu t'engloutis, tu la vois, là, ton âme comme principe de tout ce que tu vis par induction. C'est tout simple. Et puis, l'induction de l'âme synthétique, tu touches l'existence de l'acte pur qu'intéresse. Quand tu touches l'un et l'autre, c'est fini! C'est fini! À partir de ce moment-là. Terminé ce que tu ressens, etc. De lumière, d'amour, de divin, ça. Tu ne peux que le mépriser, mais profondément, tu sais que c'est pas diabolique, c'est une idolâtrie. Signé Saint Jean de la Croix. Qui le confirme lorsque c'est des choses surnaturelles qui nous arrivent dans l'âme et des choses surnaturelles qui nous arrivent dans l'esprit. On doit mépriser, et c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin dans le traité de la grâce. Il y a des grâces qui sont méprisables, hein, et ce sont quand même des grâces, elles viennent de Dieu. Mais on doit les mépriser, on doit les laisser, parce qu'elles ne nous forment pas. Et il explique comment on fait pour rentrer dans les grâces qui viennent de Dieu et qui sont sanctifiantes, qui nous sanctifient. Et il nous explique ce que c'est qu'un habitus antitatif. Vous avez tous lu la petite question dans l'article de la grâce sanctifiante sur ce que c'est que l'habitus antitatif. Bon, ben, vous êtes pris, vous y mettre. Hein. Alors, choisissez un traité de saint Thomas, un seul. Celui que vous préférez. Ils sont tous. Vous nourrira votre foi surnaturelle. Pas compliqué. Tous. D'accord ? Donc je le répète, il vous pose une question. Est-ce que la grâce, sanctifiante, est-elle un habitus antitatif? Vous prenez cette question-là. C'est une des 12 questions du traité de la grâce sanctifiante. Hein. Vous êtes prié de prendre tout le traité de la grâce. Mais enfin, là, je prends un exemple d'une des questions du traité de la grâce. Bon. C'est génial, hein, le traité de la grâce. C'est complètement génial. C'est mieux si vous avez Père Marido pour vous expliquer ce que ça veut dire. Enfin bon. C'est sûr, c'est évident. Parce qu'on est tellement paresseux. On dit, oui, je ne comprends rien, donc je passe au suivant. Alors, dis, voilà. Est-ce que la grâce est un habitus? Voilà, puis l'article après, c'est une autre question. Est-ce que la grâce est un habitus antitatif? Alors, l'habitus, c'est quoi? C'est une qualité que nous possédons, quoi, et qui nous glorifie de l'intérieur. Hein? C'est ça, un habitus. C'est une seconde nature. Alors, est-ce que c'est un habitus? Alors, tout de suite, il met les réponses qui viennent immédiatement à l'esprit des catholiques qui ne sont pas formés. Ils n'ont jamais lu saint Thomas d'Aquin. Donc, tu as tout de suite les réponses des catholiques qui ne sont pas formés. Oh ben non, la grâce n'est pas un habitus. L'habitus, c'est un accident. La grâce, c'est divin. Donc, ça ne peut pas être accidentel. C'est substantiel. La grâce, c'est forcément substantiel. C'est même super substantiel. Donc, ça ne peut pas être un habitus, parce que l'habitus, c'est un accident. C'est un avoir, c'est une possession. Voilà, première réponse immédiate de quelqu'un qui est un petit peu philosophe, catholique, mais pas formé par l'Église. Par saint Thomas. Deuxième réponse qui vient immédiatement, ben, c'est pas un habitus. C'est quelque chose qui vient dans le nous, c'est quelque chose qui vient dans la voluntas, c'est la grâce, ça vient. Non, ça peut pas être un habitus. Et il va donner les douze réponses qui nous viennent spontanément à l'esprit. Et ces douze réponses qui nous viennent spontanément à l'esprit, qui sont intelligentes, hein. Elles sont toutes fausses. Paf, t'es tombé dans le trou. T'es tombé dans le mur. Tes réponses que tu donnes immédiatement, qui sont hyper intelligentes, de dire, en plus, tu trouves le texte dans Saint-Augustin. Ah, Saint-Augustin, il l'a dit, alors. Et tu vas trouver ça dans Saint-Pierre Chrysologue. Ah, mais Saint-Pierre Chrysologue, il l'a dit. Et Origène, il a dit ça. Oui, mais si tu prends la paire de ciseaux, tu prends juste un petit passage d'Origène, sans plonger dans toute la somme de Saint-Thomas d'Aquin, t'as rien compris à la phrase d'Origène. Il faut avoir toute la doctrine pour être disciple. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il prend des réponses coupées de leur contexte et qui donne la fausse réponse. D'accord. Et puis après, il dit, ben voilà, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu a parlé, il nous a révélé la réponse. La réponse de l'autorité. Infaillible, c'est ça. En une phrase. Oui, la grâce est un habitus. Antitatif. Donne la prière, l'autorité infaillible. Et puis après, les 15 lignes suivantes, qu'est-ce qu'il fait, saint Thomas? Eh bien, il explique pourquoi c'est un habitus antitatif. Hein, c'est un habitus antitatif, c'est ça. Voilà, et donc, tac, il explique, voilà, la doctrine devient un disciple, c'est de comprendre pourquoi. On ne dit pas, oui, je crois que c'est un habitus antitatif, sans comprendre. Comprend de l'intérieur ce que ça veut dire. Et puis ensuite, il prend les 15 réponses hérétiques. Et il va expliquer, tu vois, la première là-haut, là, elle est hérétique parce que, à cause de ça, ça et ça. Puisque maintenant tu as compris, tu comprends maintenant que c'est hérétique. Et à cause de ça, ça, il prend pour toutes les. Et si tu fais la somme de saint Thomas d'Aquin comme ça, sur toutes les questions qu'il a fait, tous les articles qu'il a fait, déjà, hein, assez vite, hein, au bout d'un mois, tu as compris, quoi. Tu as compris que toutes les réponses que tu apportes toi-même, une question transcendantale très 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 importante, très très élevée, très importante pour le salut du monde. La première réponse qui te vient à l'esprit est forcément fausse. Et pourtant, je suis catho depuis 20 ans quand même. Bon, maintenant, je m'y connais et puis j'en ai fait des croix. Hein. Quand tu lis saint Thomas d'Aquin, tu vois que spontanément, ce qui te vient, qui sort de ton âme, c'est une réponse qui n'est pas vraie. C'est pas celle de la doctrine infaillible. C'est mystico-dingo. Tu le vois une fois, tu le vois deux fois, tu le vois trois fois, tu le vois. Et puis après, petit à petit, tu finis par avoir une seconde nature, tu te dis, oh là, oh là là, oh là là là, je suis pas disciple là. Hein. Oh là là, chut, spontanément, il va falloir que je. Et, du coup, il y a une espèce. Après, vous sortez de votre âme, tout de suite, vous savez ensuite, dans la révélation surnaturelle, infaillible, vous voyez, de la doctrine du corps mystique de l'Église, dans son accomplissement et de sa plénitude reçue qui vient jusqu'à nous, pour nous former à la cause finale. Hein? Et nous disposer à recevoir la lumière de cette gloire, de la vision béatifique. Voilà pourquoi on passe de la consécration du sacré cœur à la consécration à la sainte face, c'est-à-dire au chef, enfin bref, la lumière de gloire qui illumine l'unique face du Père et du Fils. Dans la lumière de gloire, il y a une seule sainte face de Dieu. Comme l'explique Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, il y a une seule sainte face de Dieu. C'est face à face. Hein? Donc, si tu as encore la poutre dans ton œil, que tu la regardes pas, comment est-ce que tu vas voir ça? La paille. Vous l'aviez repéré quand même, dans l'évangile, il disait, il faut que vous soyez formés. Si vous n'avez pas de formation, si vous n'êtes pas disciple de la doctrine de formation révélée, infaillible, vous tomberez dans un trou. Et tous les conseils que vous allez donner ne vont servir non seulement à rien, mais en plus, vous allez faire perdre du temps à la personne que vous voulez aider. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Si vous voulez bien, nous allons célébrer la Sainte Messe. Nous avons attendu que l'acolyte principal soit arrivé. La colline royale.